Jalon pour une histoire des sciences de l'homme. Il y a peu de temps, vous avez écouté Jacqueline Carroix et Nathalie Richard qui nous ont parlé des femmes dans les sciences de l'homme. Donc je remercie Lucette Toussaint d'être toujours présente à nos conférences et ce partenariat avec l'école doctorale sciences de l'homme nous réjouit. Donc on a choisi de faire venir pour la seconde fois à Poitiers Monsieur François Dos qui nous avait impressionné lors de sa conférence dans les amphilettres Lettres au présent, une conférence que vous avez donnée sur Deleuze. Et vous nous aviez parlé de la préparation de cet ouvrage sur Castoriadis. Donc, ce n'était pas entré dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit, tiens, on va attendre qu'il sorte, le livre. Et je vous ai entendu aussi dans de nombreuses émissions à la radio. Hein. Vous avez été pas mal sollicité. Peut-être pas assez, mais pas mal sollicité. Et donc, comme vous parlez aussi d'Edgar Morin, qui est un ami de la maison et qui fait partie des personnes qui nous ont permis de penser et la science et les sciences de l'homme. Donc, Monsieur Dos, François Dos, vous êtes professeur des universités, Université Paris 12 Créteil, Institut d'études politiques de Paris. Donc, vous allez nous parler de Castoriadis, un titan de la pensée. C'est ainsi que le nommait, d'après ce que j'ai compris, Edgar Morin. Donc, belle conférence à tous. Et puis, une heure d'intervention, une demi-heure de questions, beaucoup de questions, j'espère. Merci beaucoup, Monsieur Dos. À tout à l'heure.
Bien, merci. Ça marche ? Oui. Merci pour cette invitation. Et effectivement, je vais retracer très rapidement, de manière un peu cavalière, le parcours, certains connaissent mieux que moi Castoriadis. Pour d'autres, ce sera un peu nouveau, parce qu'effectivement, c'est une très grande figure, quelque peu oubliée, justement. Et d'où le projet de faire cette biographie pour rendre justice à un grand penseur qui a marqué notre vie intellectuelle et qui était effectivement, et je vous remercie donc pour cette invitation, Anne Périou, qui a été en effet qualifié par Edgar Morin de titan de la pensée. Edgar Morin qui a d'ailleurs consacré aussi une ode Castoriadis, que j'ai reproduit dans mon bouquin, dans ma biographie, qui a dit aussi, comme titre d'un article sur Castoriadis, que c'était un Aristote, pas mal déjà, un Aristote en chaleur. Alors là, c'est tout l'humour, évidemment, d'Edgar Morin, parce qu'évidemment, il y a une polysémie pour comprendre ce qu'il entend par Aristote en chaleur, ce qui, évidemment, la première définition qu'il en donne est d'ordre philosophique, c'est-à-dire que il est du côté non pas de l'Aristote qui classe, mais de l'Aristote de la création, de la traversée d'expérience. Alors, Castoriadis, c'est, comme son nom l'indique, un grec d'origine et qui arrive à Paris, j'y reviendrai en 45, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il ne prendra que tardivement la nationalité française, puisque, ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de choses, et notamment l'usage très fréquent chez lui, qui n'a pas aidé à sa visibilité, de pseudonymes, aussi par le courant auquel il adhérait, mais de Chaulieu à Cardan, passant par Coudray, vous avez là toute une série de pseudos qui veulent dire Castoriadis, mais qui ne peuvent pas le dire, puisque pendant longtemps, il n'existait que de manière un petit peu souterraine. Bon. Il ne prend cette nationalité française qu'en 1970. Et je dirais que le fait qu'il est étranger en exil en France, où il s'est finalement établi, a fait de lui quelqu'un qui, dont on peut dire qu'il avait une espèce d'avantage épistémologique par rapport au contexte des intellectuels français de l'époque, par l'expérience qu'il avait vécue, et sur laquelle on va revenir rapidement, en Grèce. Il a donc beaucoup apporté, et beaucoup de lucidité, dans le regard sur le monde, dans ces années où il arrive effectivement dans l'après-guerre en France. Il fait bouger les lignes, difficilement, on va le voir, mais il va réussir à les changer terriblement. Alors, on peut s'étonner que quelqu'un qui a autant compté, dont je disais qu'il était le titan de la pensée pour Edgar Morin, qu'il est pour Pierre Vidal-Naquet, qui était peu laudatif sur les gens qui l'entouraient. Hein. Vidal-Naquet disait de Castoriadis que c'était un génie. Bon. Ce qui, en plus, de la part, non seulement Vidal-Naquet pour son caractère, mais en plus de la part d'un spécialiste de la Grèce antique, comme Vidal-Naquet. Hein, c'est un génie. Que le psychanalyste André Green, qui a disparu il y a peu d'ailleurs, André Green disait qu'il avait rencontré avec Castoriadis la personne la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Bon, donc, vous voyez, un petit peu, là, des gens qui étaient de grandes personnalités intellectuelles et qui considéraient vraiment Castoriadis sur un piédestal. Alors, il est vrai que Castoriadis s'est donné un projet intellectuellement prométhéen. Hein, c'est un peu comment Yu Kong déplaçait les montagnes, hein, comme on disait à une époque, parce que effectivement, son projet intellectuel, c'était simplement penser tout ce qui est pensable. Bon, donc il y a un caractère évidemment illimité à cette possibilité. Or, quand on regarde d'un peu près, on s'aperçoit que Castoriadis, qui est connu comme philosophe d'abord, et je tiens à dire par ailleurs que je ne suis pas, tiens, le miracle, je ne suis pas philosophe hein, professionnellement, mais je ne suis qu'historien. Il est philosophe. Mais outre qu'il est philosophe, il est aussi économiste, et économiste professionnel, puisqu'à partir de 1948, il devient un fonctionnaire international à l'OCDE, et il y occupera une place tout à fait éminente, puisque quand il donne sa démission de l'OCDE, il dirige tout le service statistique et il a quand même 120 personnes sous sa responsabilité. Il est philosophe professionnellement, j'y reviendrai. Il est militant politique, à un courant sur lequel, évidemment, je vais parler, qui est socialisme ou barbarie. Il est psychanalyste et il va devenir psychanalyste professionnel, hein, analyste avec des analysants. Et il devient effectivement psychanalyste professionnel à partir de 1973. Il deviendra, au début des années 80, directeur d'études à l'École des hautes études, dans une élection qui n'a pas été d'ailleurs particulièement facile. Mais le voilà donc chercheur dans cette institution prestigieuse qu'est l'École des hautes études d'ex 54 boulevard Raspail. Et il est animateur de revues. Hein. Je parlais de socialisme ou barbarie, mais il a animé aussi la revue Texture, il a animé la revue Libre, enfin co-animé. Et donc on a là quelqu'un qui, vous le voyez tout de suite, est dans la transdisciplinarité. C'est quelqu'un qui va passer les frontières, un passeur de frontières, qui ne va pas se cantonner à des frontières disciplinaires, car évidemment... Quand on se donne pour tâche de penser tout ce qui est pensable, évidemment, on est amené à avoir ce regard transverse. Et alors, autre caractéristique de sa pensée, c'est que c'est une pensée intempestive, c'est-à-dire qu'elle est toujours un peu à contre-courant. Et là encore, il pâtit d'un manque de visibilité sur lequel je suis parti aujourd'hui. En vous disant, c'est un génie, mais on ne parle pas tellement de lui, il n'est pas tellement présent. La première raison, c'est qu'il n'est pas classable. Hein. On aime bien en France, moi j'ai vu ça en faisant justement cette biographie de Deleuze Guattari. Guattari est un inclassable. Michel de Certeau est un inclassable. Bon. Castoriadis est difficilement classable aussi. Et donc, là, il pâtit de cette manque de classement qu'on aime bien étiqueter, mais ce qui est un problème aussi. Hier, j'intervenais dans une grande assemblée de libraires à Paris. Oui, pour les libraires, c'est aussi qui s'informaient sur l'état de la discipline historique. Pour n'importe quel libraire, oui, un livre arrive, il faut le classer, il faut le mettre sur un rayon, il faut le mettre sur une table. Bon, il y a une étiqueté, il est l'étiqueté d'une certaine manière. Bon. Je disais intempestive. En effet, il arrive dans l'après-guerre à un moment où le rayonnement de l'Union soviétique est absolu. Il faut se remettre dans les catégories de l'époque, en 45-50, est absolument exceptionnel. J'en donnais qu'un exemple très simple. Un sondage a été fait dans l'après-guerre en France pour demander aux Français quel était le pays qui avait le plus contribué à la libération contre le nazisme. les Français ont répondu à plus de 60%, c'est l'Union soviétique. Et il faut le savoir, il faut se le rappeler. Pourtant, le D-Day, le débarquement, c'est les Américains, c'est les Anglo-Saxons. Mais évidemment, ce qui prévaut là dans l'esprit des Français, c'est le coût humain de la bataille des Soviétiques contre le nazisme, Stalingrad. Et puis c'est le poids de la résistance communiste, des FTP, du Parti communiste, qui évidemment a, avec le Parti communiste de l'Union soviétique, un grand parti frère, le grand frère. Et donc l'aura est complète de l'Union soviétique. Or, Castoriadis, et je vais y revenir évidemment, et là arrive dans un discours éminemment critique, et radicalement critique, par rapport à l'Union soviétique. Dans les années 60, ce qui domine, je ne développe pas, mais c'est pour donner cette position intempestive, ce qui domine, c'est le paradigme structuraliste. Tout le monde était structuraliste. Ce que je raconte dans mon histoire du structuralisme, je raconte une anecdote qui m'a été racontée par Jean Pouillon, qui était le proche de Sartre, puis ensuite de Lévi-Strauss, c'est que, qui montre bien l'engouement pour le structuralisme. On est dans les années 60, l'équipe de France de football allait d'échec en échec, l'entraîneur de l'équipe de France de football est interviewé à la télévision, on lui demande « qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer les résultats de l'équipe de France ?» Il répond « je vais la restructurer de manière structuraliste ». Ce qui n'a pas donné des résultats magnifiques. Je pense que le rôle ensuite, plus tard, d'un Platini ou d'un Zidane, a été meilleur pour les résultats de l'équipe nationale. Mais c'est dire que le sésame était le structure. Eh bien, Castoriadis est anti-structuraliste. Hein, il est critique radicalement par rapport à ce paradigme dominant. Dans les années 80-90, ce qui domine, c'est l'individu, l'individualisme, certaines formes de thématisées par Christopher Lasch de narcissisme. C'est ce que Lipovetsky appelle l'ère du vide, c'est les travaux de Paul Yonet. Or, qu'est-ce que fait Castoriadis? Il ne se complaît pas dans cet individualisme qu'il dénonce comme forme de privatisation de l'individu, et il dénonce le règne de ce qu'il appelle l'insignifiance. Bon, perte de sens, règne de l'insignifiance, etc. Donc, vous voyez, il est toujours en situation de rupture. Donc une pensée singulière, et si je me suis intéressé à cette pensée singulière, d'un Castoriadis que je n'ai pas vraiment connu, j'ai fait un entretien avec lui, qui j'ai eu la surprise d'ailleurs en voir qu'il a été republié dans La Société à la dérive, pour la petite revue dans laquelle je fonctionnais, qui était Espace-Temps, où je suis allé le voir rue de l'Albony, où je l'interrogeais sur la question de la rupture. On était en 88, et on était donc aux 20 ans après 68 et à l'orée du bicentenaire de la Révolution française en 89. Et je l'interrogeais sur la notion de rupture historique. Bon. C'est le seul contact que j'ai pu avoir avec Castoriadis. Donc c'est maigre, vous en conviendrez. Mais si cette pensée m'intéresse, c'est que, à mon avis, elle a une très grande actualité aujourd'hui, à l'heure où on se pose un certain nombre de questions sur la démocratie, sur les moyens de renforcer les institutions démocratiques, la vie démocratique, qui connaît une crise de longueur. Et nous avons là une manière de puiser un horizon d'attente et des sources d'espérance dans les thématiques de Castoriadis. Non pas des recettes, hein, ni un modèle, mais un certain nombre de choses qui peuvent être éclairantes pour un meilleur fonctionnement de la démocratie moderne. Alors, parlons de l'histoire, voyons d'où il vient pour voir où, effectivement, en quoi cette pensée est actuelle. Et d'abord, évidemment, cette expérience tragique qu'il traverse, qui est l'expérience de la Grèce, l'avant-guerre et de la guerre et du début de la guerre civile. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Castoriadis, qu'il est né en 1922. Ah, et il y tient Constantinople. Alors, je traduis, en langage moderne, ça veut dire Istanbul. Mais vous comprendrez bien que le grec qu'il est n'accepte pas trop le nom d'Istanbul. Donc pour lui, c'est resté Constantinople. Hein, et donc il dira toujours, je suis né à Constantinople en 1922. Ses parents, évidemment, dans ce moment de rupture turco-grecque ne reste pas à Constantinople et à l'âge de 3 mois, donc il n'a pas de souvenir véritablement de Constantinople. Il suit évidemment ses parents, et pour cause à 3 mois, et il les suit à Athènes. Et donc le voilà évidemment au cœur de la Grèce, où il va rester à Athènes jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc quand il arrive, vous voyez, il arrive quand même très jeune à Paris, en décembre 45, mais toutes ses études, toute son enfance, toute son adolescence et sa formation intellectuelle lui proviennent d'Athènes. Alors, c'est un élève brillantissime. Et là, je le dis, hein, non pas parce que je connais les défauts, je sais pas, ma première biographie, donc je connais l'écueil qui consiste à faire une hagiographie, à dire que celui qu'on biographie, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le génie, et puis les autres sont des moins que rien. Je suis assez conscient de mais c'est bon, et je pense ne pas avoir écrit, avoir, dans la mesure du possible, là, maintenant vous direz peut-être le contraire, mais tenu mes distances avec Castoriadis, je ne l'ai pas toujours tenu, je pense, avec Paul Ricoeur. Et donc, je ne dis pas ça parce que je l'ai biographé. Mais il a 2-3 ans d'avance scolairement. Il découvre très tôt la philosophie, la musique, la littérature. Zoé, son épouse, me montrait des partitions. Hein, il composait déjà, adolescent, hein, des morceaux de musique. Originaux, signé Castoriadis. Donc, c'est dire. Il a joué du piano toute sa vie et il a très tôt, par la fibre maternelle, été branché sur la musique. À 12-14 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il a déjà lu Platon, Spinoza, Jean-Jacques Rousseau et Romain Rolland. Et il a bénéficié, il faut dire, à 12-14 ans, d'une gouvernante assez curieuse. J'ai découvert ça dans l'enquête, évidemment. Une gouvernante qui s'appelle Maximine Portas, et alors qui est une érudite, qui est une philhellénique un peu folle dingue, puisque pour vous dire à quel point elle est. Et son père a été la recrutée, cette gouvernante qui va s'occuper du petit Cornelius, à Lyon. Où elle faisait des recherches universitaires de pointu, de très haut niveau, d'épistémologie, de mathématiques et de philosophie. Et pour vous dire à quel point elle était philhellénique, elle était dans un groupe grec, etc., habillée telle que les Grecs anciens s'habillaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Déjà, dire qu'elle aimait la Grèce. Et donc, César Castoriadis, le père, dit... Venez à Athènes, hein, puisque vous aimez la Grèce, hein, c'est différent comme climat de Lyon, et vous allez vous occuper du petit Cornelius sur plan culturel. Bon. Et c'est ainsi que la Maximine Portas a en effet discuté littérature, philosophie, avec le petit Cornelius de 12-14 ans. Hein. Ce personnage est un peu curieux parce que, ensuite, après avoir été fasciné par la Grèce, elle sera fascinée par l'Inde et fascinée par un grand barbare de l'époque, qui est un certain Adolf Hitler. Au point d'ailleurs que, vous voyez, il n'a pas connu le même itinéraire politique que le petit Cornelius. Hein. Bon, là, elle n'a pas passé le virus, elle ne l'avait pas encore à l'époque. Mais ils se sont perdus de vue, ils se sont retrouvés beaucoup plus tard, mais à distance. La relation a été quand même extrêmement forte entre eux. Elle a joué un très, très grand rôle. Avant 18 ans, avant la guerre, Castoriadis a déjà découvert donc, les auteurs dont je vous ai parlé, mais s'est ajouté Hegel, Marx, Aristote, et il a déjà traduit en grec, avant 18 ans, Max Weber. Toute simplicité comme ça. Pour ses études universitaires, en 38, il s'engage dans des études de droit, de sciences économiques et politiques. Donc, c'est assez large, droit, sciences économiques, politiques. Bon. Mais en même temps, ça ne le nourrit pas ça ne le satisfait pas véritablement, donc il passe son temps à lire des ouvrages de philosophie et de la littérature. Dans ces années, il adhère aux jeunesses communistes, puis il adhère au Parti communiste, mais il rompt assez vite avec le Parti communiste. Connaît en effet, il fait la connaissance de celui qui deviendra un ami, qui s'appelle Spyros Stinas, qui est le dirigeant d'un tout petit groupe trotskiste, qui est la section grecque de la 4e internationale. Donc, petit groupe trotskiste, et évidemment, quand il est séduit par les thèses trotskistes, là, bah, ils iront avec le stalinisme, ils iront avec le PC, ce qui, d'ailleurs, déjà a failli lui coûter la vie. Hein, parce que son secrétaire de cellule lui donne rendez-vous ainsi que son petit camarade, qui lui aussi prend ses distances, en haut d'une colline qui surplombe Athènes. Et là, il est sauvé parce que ben, ça, c'est un autre côté de Castoriadiste, un homme à femme, donc il a plein de rendez-vous galants. Et là, il a un rendez-vous galant, et il fait passer le rendez-vous galant avant le rendez-vous avec son secrétaire de cellule. Bien lui en a pris. Je ne sais pas pour cette histoire amoureuse, mais son copain a été fusillé. Parce qu'on rigole pas. Hein, c'est comme ça qu'on règle les tendances dans le parti stalinien. Donc son copain en est mort et lui en est resté survivant. Bon. Donc c'est dire ici qu'il a, durant cette période et d'avant-guerre et de pendant la guerre, pendant l'occupation, vécu cette tragédie en s'engageant, parce qu'il était engagé donc dans l'extrême gauche trotskiste, et en risquant sa peau par rapport à tout le monde. Hein. Par rapport au PC, il n'y avait pas pire pour le Parti communiste que ceux qu'ils appelaient d'ailleurs les hitléro-trotskistes. Hein, c'était leur qualificatif. Donc c'est dire à quel point ils étaient aimés. D'autre part, l'occupant allemand, ça rigolait pas non plus. Et à deux reprises, je ne sais pas sur les détails, hein, je le raconte dans mon bouquin, mais il y a deux anecdotes que je raconte où ça a tenu dans un bus à une place de contrôle, où il pouvait, par la Gestapo, être arrêté et éliminé, évidemment, physiquement. Et c'est ainsi qu'il va, évidemment, bien connaître cette situation impossible. Qui est de tenir une position révolutionnaire dans cette situation. Bon, or, comme vous le savez, la situation de la Grèce en 1944 est une situation extrêmement paradoxale. C'est un pays qui s'est libéré tout seul. Hein, bon, et il a été libéré à 95%, presque 98% de son territoire, par les forces communistes. C'est l'ELAS, l'armée communiste, qui a libéré la Grèce. Mais vous le savez aussi, je ne vous apprends rien, qu'en 1944, à l'occasion d'une grande rencontre internationale entre les grands, il y a eu un petit bout de papier passé entre Churchill et Staline. Staline disant « Moi, je veux toute l'Europe centrale. Hein. » Là, on ne fait pas de quartier. Hein. On élargit le glacis soviétique. Et Churchill se dit, bon, là, je ne vais rien pouvoir faire. Puis il lui passe un papier en disant, moi, je veux la Grèce. C'est vrai qu'il y a de belles plages. Et Staline, et ça s'est réglé comme ça. Hein, Staline lui dit, bah, OK, pour la Grèce. Et donc, la Grèce est dans le camp occidental et pas dans le camp soviétique. Et donc, à partir de là, si vous voulez, il y a un gouvernement qui est mis en place d'union nationale, mais tenu par les Anglais, mais qui tient absolument pas le pays. Il tient même pas Athènes. Hein. Et quand ce gouvernement demande de désarmer la population, là, il y a protestation des gens, et organisée, orchestrée par le Parti communiste, mais qui tourne autour de l'hôtel d'Angleterre, où se trouve le gouvernement, parce qu'ils n'ont absolument aucune possibilité de prendre le pouvoir. Hein. Pour les soviétiques, il n'est pas question de prendre le pouvoir. Donc, on fait mine de faire la révolution sans faire la révolution. Bon. Donc, on a une situation invraisemblable. Et donc, lui voit ces débuts-là. Et évidemment, il est recherché partout. Il se cache dans la cave. Avec quelques vins de raisiné, qu'on ne trouve plus en Grèce aujourd'hui. Donc, il est traqué par exemple. Et un jour, son père lui dit, tu peux y aller, Corneille, hein, avec ton sac à dos. Le bateau attend au Pirée pour quitter cette situation impossible. Alors là, en effet, il faut rendre hommage au directeur de l'Institut français d'Athènes, qui s'appelle Octave Merlier, et qui s'est efforcé de faire fuir toute une série d'étudiants, de chercheurs. En fait, il y a 180 boursiers qui vont pouvoir bénéficier de l'organisation de ce voyage par justement Octave Merlier pour prendre place sur un bateau qui en plus a bon qui est devenu un grand lieu de mémoire qui est le Mataroa où vous avez là un équipage britannique sur le Mataroa et bon c'est un bateau qui a déjà fait beaucoup, d'abord pour le débarquement en Normandie, puis pour le convoiement d'un certain nombre de survivants des camps vers la Palestine, et qui là va sauver un certain nombre de Grecs, et notamment beaucoup d'éminents futurs et brillants étudiants qui ont bénéficié de cette bourse, puisqu'on va avoir sur le même bateau trois grands philosophes qui vont marquer la vie intellectuelle française. Outre Cornelius Castoriadis, vous avez sur le même bateau Kostas Axelos et Kostas Papaoyannou, qui est aussi sur le même bateau. Comme de la même manière que vous avez le sculpteur Koulentianos, le chef d'orchestre Korafas, le peintre Byzantinios, des gens qui deviendront célèbres dans la vie artistique et intellectuelle française d'après-guerre et qui se trouvent tous ensemble sur le Mataroa. Chose d'ailleurs assez drôle, c'est que à l'époque, encore sur le bateau, Kostas Axelos était encore membre du Parti communiste. Et la rumeur a couru. Moi, je ne l'ai pas mis dans le bouquin parce qu'on ne peut pas, en tant qu'historien, être obligé d'écrire que des choses attestées véritablement. Là, c'est simplement une rumeur que Kostas Axelos aurait été chargé d'éliminer Castoriadis s'il le voyait sur le bateau. Bon. Ça, il l'a pas fait. Hein. Bon, donc, mais en tant que communiste, qui évidemment, qui pour lui, un trotskiste doit pas véritablement continuer à exister. Hein. Mais d'après une des filles de Castoriadis, qui m'a pas confirmé, mais ce que lui aurait dit son père, c'est que effectivement, dans le train qui est monté, parce qu'il y a eu le Mataroa qui est allé jusqu'à Tarente, dans le sud de l'Italie, puis ensuite ils ont pris le train de Tarente en passant par la Suisse jusqu'à Paris. Et dans le train, il y aurait eu une réunion de cellules avec à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on fait de ce trotskiste ? Est-ce qu'on lui apprend à nager ou est-ce qu'on le laisse aller jusqu'au bout du voyage ? Bon. Le Mataroa est devenu un haut lieu de mémoire. D'ailleurs, il y a une pièce qui a été jouée à Paris là-dessus, il y a un orchestre qui s'appelle le Mataroa, parce que on appelle ça la nef des Grecs maintenant, parce que il y a une espèce de correspondance des temps entre l'Antiquité, l'Odyssée, ces exilés là, qui ne sont pas du tout des exilés dorés, là j'ai pas le temps, mais leur voyage a été extrêmement dur sur le plan de la vie quotidienne, même s'il a été riche apparemment en rencontres amoureuses, en tout cas pour le jeune trotskiste. Autre caractéristique, donc lucidité précoce sur l'Union soviétique. Arrivé à Paris, le jeune Castoriadis, 23 ans, trotskiste. Donc, il va s'engager politiquement et il va chercher à Paris quel est l'équivalent du mouvement trotskiste en Grèce. Et il trouve le Parti communiste internationaliste, la section française de la 4e internationale, et il adhère à la 4e internationale. Petit groupe, je l'ai dit. Bon, il y a engouement pour l'Union soviétique, les trotskistes sont extrêmement peu nombreux dans ce petit groupe. Et dans ce petit groupe, Il intervient tout de suite comme orateur extrêmement prolixe sur l'expérience grecque, etc. Et il y a une femme dont il va faire sa compagne, qui s'appelle Rilke Walter, avec laquelle il va avoir son premier enfant, Sparta, et qui est à l'époque en couple avec un autre trotskiste qui est connu, qui s'appelle Claude Lefort. Et Rilke Walter, en tant qu'historiadiste, s'est dit « ce type-là, il est bien, hein ? Faut faire une tendance avec lui. » Parce que là, encore, ça, c'est des mœurs trotskistes. Quand vous avez trois trotskistes, vous avez au moins deux tendances. Donc là, effectivement, tout de suite, dès qu'ils ont vu qu'historiadiste, une tendance. Et effectivement, très vite, on aura la tendance Chaulieu-Montal. Chaulieu, c'est qu'historiadiste. Montal, c'est Claude Lefort. Et ce qui crée un lien entre Lefort et Castoriadis, qui sera toujours extrêmement lien très fort et très tendu, c'est que Rilke Walter va passer des bras de Claude Lefort aux bras de Castoriadis. Et la chose va se faire dans l'appartement même des Lefort qui ont accueilli le jeune Castoriadis pour qu'il ne fasse pas trop de transport pour venir aux réunions. Et Lefort sera quelque peu exclu du lit conjugal et retournera chez ses parents. Bon, ce qui crée des liens, hein, qui expliquent aussi peut-être un peu les tensions futures et la rupture radicale, mais beaucoup plus tardive. Alors, en même temps qu'il milite, Castoriadis poursuit ses études de philosophie à la Sorbonne avec un épistémologue qui s'appelle René Poirier et sur une thèse qui s'appelle « Vers une logique axiomatique, introduction philosophique ». La perspective de Castoriadis, l'ambition pour cette thèse, est tout simplement de faire la synthèse entre la logique philosophique et la logique mathématique. Vous voyez, c'est tout à fait simple, hein, trait de plume, parce que non seulement il maîtrisait la philosophie, les sciences humaines, etc., la littérature, puis la psychanalyse, mais aussi les sciences dures, mais aussi les mathématiques. Et là, j'ai des témoignages dans mon enquête de mathématiciens professionnels qui ont mené des discussions de fond, théoriques, avec lui sur les mathématiques. Et il était capable de les tenir, de la même manière qu'il était capable de tenir des discussions d'érudition avec Pierre Vidal-Naquet sur la Grèce antique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon. Alors, il sort de la précarité. Au début, sa vie est difficile. Il mange avec sa fille sur une caisse en bois. Les conditions de vie sont très, très difficiles. Et puis, de toute façon, le peu d'argent qu'il a, il le met pour la rue, pour la tendance. Donc, plan politique. Et il rentre en 48 à l'OCDE, donc là, il est un peu sorti d'affaire, et il va mener là une double vie, parce que, comme il travaille très vite, il va liquider les affaires de l'OCDE auxquelles il s'occupe bien, qu'il ne sacrifie pas, mais il lui faut peu de temps pour les mener à bien. Et puis, en fait, il s'occupera, pour l'essentiel de son temps, de bureau à la revue, qui n'est pas encore créée en 46-47, mais qui sera créée en 49, qui est Socialisme ou Barbaille. Et il va donc constituer une tendance avec Lefort, dite de gauche, par rapport à la direction trotskiste, qui est de gauche aussi, mais qui critique la direction trotskiste et qui critique les thèses de Trotsky sur l'idée, on est donc en 47-48, sur l'idée que l'Union soviétique serait un État ouvrier. Vous savez que, pour Trotsky, l'Union soviétique est un pays bureaucratiquement dégénéré, défiguré. Là, je reprends y compris les titres de Trotsky, hein, la révolution défigurée, etc. Mais ça reste un État ouvrier. Ça reste un État qui jouit encore des acquis de la révolution d'octobre. Ben, pour Lefort et Castoriadis, absolument pas. C'est un État anti-ouvrier, c'est un État anti-révolutionnaire, c'est un État anti-socialiste. Et il n'est pas question, donc, dans ce climat qui est un climat de guerre qu'on appelle froide aujourd'hui, mais qui aurait pu tourner à la guerre chaude, parce qu'il faut se remettre dans l'indétermination du présent de l'époque. En 47-48, on croit que la guerre est imminente, la Troisième Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est le moment où Sartre discute avec Camus en se disant « Qu'est-ce que tu fais si les troupes russes arrivent à Paris ? Est-ce que tu résistes ? Tu rentres dans la clandestinité ? Est-ce que tu vas aux États-Unis ?» Mais c'est des choses plausibles. Hein. Bon. Donc on discute ça au quotidien parce que la guerre semble imminente. Hein. Ce qui évoquera d'ailleurs le titre même, « Socialisme ou barbarie ». Or, dans ce climat, il n'est pas question pour eux d'appliquer le mot d'ordre trotskiste de la défense en dernière instance de l'Union soviétique. Pas question. Bon. C'est un régime honni, c'est un régime adversaire, il n'est pas question. Et au contraire, il faut tout faire pour renverser ce régime. Alors, le climat est très tendu et cette tendance va petit à petit prendre son autonomie, vivre comme parti dans le parti, et en 49, rupture, la tendance sort de la 4e internationale pour créer un groupe nouveau et une revue nouvelle, qui aujourd'hui a une valeur de légende, mais qui n'était représentée pas grand-chose, qui s'appelle Socialisme ou Barbarie. Ils étaient combien ? Trentaine. Dans les basses eaux, ils sont même descendus jusqu'à 20. Oui, c'était... Là, on peut faire moins 3 socialisme ou barbarie, hein, ce soir. Ils n'étaient vraiment pas nombreux. Au plus, à un moment, mais ça a été vraiment l'acmé, le point magistral d'influence du socialisme ou barbarie, ils ont atteint le chiffre de 80. D'ailleurs, ça a provoqué... C'est le moment où ça a provoqué, d'ailleurs, des frictions entre Lefort et Castoriadis, parce que Castoriadis a dit à 80, il faut commencer à organiser les choses. Hein. On est quand même trop nombreux. Bon, il faut quand même organiser. Hein. Alors que Lefort, pas du tout, pas de modèle bolchevique, pas d'organisme. Là-dessus, il y a eu une scission sur la question de l'organisme. Sur le plan théorique, là où ils vont prendre leur distance par rapport à la théorie marxiste, très vite, alors, tout en se réclamant de Marx, hein, pendant très très longtemps. Hein. Ce groupe se réclame de Marx. Mais il y a un déplacement très rapide par rapport aux thèses marxistes habituelles qui valorisent dans les analyses des formations sociales la question de la propriété privée des moyens de production. Et considérant que ça se joue dans une société, la contradiction entre ceux qui ont la possession des moyens de production et ceux qui subissent... ces moyens, non que leur force de travail. Pour socialisme ou barbarie, dans leurs analyses, la rupture ne se fait pas là. Elle se fait entre ceux qui tiennent le pouvoir de décision et ceux qui exécutent. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus large que le schéma classique industriel tel que dans le monde industriel, Marx a pu l'analyser. Et ça déplace complètement les lignes. Les dirigeants d'un côté, les exécutants de l'autre. Ça vaut donc y compris pour des salariés, pour des fonctionnaires, pour... ça englobe absolument tous les corps de métier. Ce groupe est essentiellement un groupe d'intellectuels. Vous avez Lefort, sociologue, Castoriadis, philosophe. Vous avez au tout début, d'ailleurs, un grand psychanalyste qui fera partie du groupe pas longtemps... mais il donnera surtout de l'argent parce qu'il a il a parmi les meilleurs vins de France, c'est Laplanche. Jean Laplanche fait partie du groupe. Mais vous avez aussi un grand sémiologue, le grand ami de Roland Barthes, qui fera partie de Socialisme ou Barbarie, hein, Gérard Genette. Donc vous avez quand même un certain nombre, vous voyez, de vedettes intellectuelles et sur la fin de Socialisme ou Barbarie, mais là je devance la période, là on est dans la fin des années 60, vous avez un des grands philosophes d'aujourd'hui, qui d'ailleurs préside l'association Castoriadis, qui est Vincent Descombes, hein, qui était effectivement qui était sur la fin de membre de Socialisme ou Barbarie. Donc un certain nombre de vedettes, on ne peut pas dire qu'ils aient réussi leur entreprise qui était de mordre, de recruter dans la classe ouvrière. Ah, c'est l'objectif, la révolution prolétarienne, donc l'objectif, c'était le prolétariat. Bon. Des prolétaires, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a un cheminot, qui a été d'ailleurs dans un camp, ancien déporté, etc., qui s'appelle Georges Petit. Et puis vous avez l'ouvrier. L'ouvrier, alors qui s'appelle Jacques Gautrat, mais qui est plus connu sous le nom, parce qu'il a beaucoup écrit après dans des livres, il est devenu sociologue, et puis il a beaucoup écrit dans la revue Esprit, c'est Daniel Mottet. Alors Daniel Mottet, Lui, c'est un véritable ouvrier de chez Renault, qui est un ouvrier de base, et bon, qui m'a raconté d'ailleurs comment il était écouté, en effet, par tout le groupe. C'est-à-dire, c'était la pitié, c'était l'oracle de Delphes. On écoutait l'ouvrier. Bon. Parce que dans les groupes, comme je l'ai dit dans le bouquin, c'était socialisme ou barbarie était très castoriado-centré, non pas parce qu'il est un homme de pouvoir, mais parce que, bon, effectivement, il parlait beaucoup, il avait beaucoup de choses à dire, il préparait beaucoup les réunions, etc. Mais quand Motet prenait la parole, là quand même, hein, il se taisait pour écouter la parole de l'ouvrier. Alors, on peut dire que de 49 à 56, c'est un groupe qui prêche dans le désert. Hein, ces thèses apparaissent comme complètement farfelues, de refuser de défendre l'URSS, cette critique absolument radicale. Et il reste donc à une trentaine, complètement coupé de tout. Et puis, la sortie du tunnel et du purgatoire va être 56, comme pour beaucoup d'intellectuels en France. 56, c'est, comme vous le savez, la révolution hongroise, réprimé par l'intervention de l'armée russe. C'est le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique avec le fameux dit rapport, mais qui est un vrai rapport, mais qui a été longtemps considéré comme le pseudo-rapport inventé par la CIA, mais qui est le vrai rapport du premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique et Khrouchtchev, qui est le rapport au 20e congrès du Parti sur les crimes de Staline. Hein, crime de Staline, vous avez là la première fissure importante du totalitarisme, du bloc bureaucratique. Et c'est évidemment ce qui se passe, c'est la divine surprise pour le groupe socialisme ou barbarie. C'est-à-dire que on a là, avec la révolution hongroise, les conseils ouvriers qui se battent contre le pouvoir bureaucratique, l'exemple même de ce qu'ils avaient analysé comme un pouvoir qui n'a rien d'ouvrier, mais qui voit les ouvriers se révolter contre lui, car c'est un pouvoir d'une classe qui opprime. Bon. Et qui, finalement, finira par se perpétuer, mais par une intervention militaire extérieure. Hein. Donc, et après, une véritable révolution et des conseils ouvriers qui se mettent en place dans les quartiers, dans les usines, etc., partout en Hongrie. Donc, on a là vraiment le modèle de la révolution qu'ils souhaitent. Et donc, ils sortent, là, de leur confinement un peu sectaire, et font des réunions où ils sont davantage écoutés, où il y a des gens qui viennent à eux. Hein. Vous avez à ce moment-là, d'ailleurs, un intellectuel important qui va adhérer à ce moment-là, qui est Jean-François Lyotard, l'historien Pierre Souris, Daniel Blanchard, Sébastien Disbarre, etc. Bon, un certain nombre de gens qui vont adhérer. Et puis, surtout, se crée une nouvelle revue en 56. Plus ouverte, hein, moins marxiste, révolutionnaire que socialisme ou barbarie, une revue qui est faite de beaucoup d'anciens communistes et qui veulent aller vers une révision totale, un aggiornamento, une remise à plat de tout, c'est la revue Argument. Or, quel est l'initiateur de cette revue Argument et le plus grand animateur, c'est Edgar Morin. Donc on a là, dans Argument, Mascolo, Fougérolas, on retrouve Costas Axelos, hein, qui était sur le bateau, Jean Duvigneau, François Fecheteux, etc., et Edgar Morin. Et là, des connexions vont se faire entre Argument et socialisme ou barbarie. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement une présentation par Gérard Genette, d'ailleurs, dans Argument de socialisme ou barbarie, un article d'Edgar Morin pour dire ce qu'il pense, qu'effectivement, tout le bien qu'il pense de socialisme ou barbarie, de cette dépétrification, hein, que a apporté le socialisme au barbarie, sans partager toutes les thèses de ce groupe, etc. Et puis en 58, il y aura effectivement avec ces quelques recrues, j'ai dit qu'à ce moment-là, ils sont 80, ils créent plusieurs cellules, il y a même des cellules en province, c'est dire. Donc il y a un problème d'organisation, un débat, je vous passe les détails, entre le fort castorialis, rupture. Hein, donc hop, rupture, et hop, il se retrouve, il était 80 à 40, à socialisme ou barbarie. Et puis ensuite, on a un Castoriadis qui, d'ailleurs, analyse plutôt bien les choses en 58. Par exemple, contrairement à ce que dit la gauche traditionnelle à l'époque, qui voit dans le retour du général de Gaulle la victoire du fascisme, la dictature, etc., Non, le groupe socialiste Barbarie a des analyses beaucoup plus fines, voyant en De Gaulle une espèce de mendicisme autoritaire, qui effectivement montre que les citoyens ont abandonné la politique, mais c'est là où ça pâtit, mais voit pas dans De Gaulle un dictateur éventuel, mais un modernisateur de l'économie française, qui sera effectivement, après avoir liquidé la question algérienne. Donc une analyse plutôt pertinente de tous ces écrits très prolixes, hein, qui sont aujourd'hui, on peut saluer l'entreprise éditoriale des éditions du Cendre, qui publie tous ces textes anciens de Castoriadis, hein, dans des volumes exhaustifs, où il retrouve d'ailleurs des textes inédits dans les archives, alors que, c'est un moment où les 10-18, même moi, j'ai dû les photocopier, parce que... J'ai été sur le marché de l'occasion à Paris. On m'a dit chercher les Castoriadis en 10-18. Vous savez, il y a des livres rares, mais là, c'est des livres très rares. Hein. Vous repasserez dans 10 ans, il y en aurait peut-être un. J'en aurais peut-être un en boutique. Donc, j'ai pris le fonds à Sciences Po et je l'ai photocopié. Mais aujourd'hui, il est en circulation grâce aux éditions du Cendre, hein, qui effectivement réactualisent tout ça. Remettant en circulation tous ces textes et textes fleuves. Bon. Parmi ces textes fleuves, il y a cet article très long, produit dans le début des années 60, de Castoriadis. Pour vous dire, pour un article, il fait 189 pages. Vous voyez, en général, quand vous faites un article, moi, ça m'arrive pour les revues, je demande combien de signes, combien de divisions. Alors, on me dit, tant de signes. Là, 189 pages. Bon. Et puis, alors, il ne s'agit pas de... Hein, lui, il ne fallait pas d'en éliminer une ligne. Hein. Quand Christian Bourgois lui a dit « Mais moi, je suis prêt à vous publier », il a dit « Oui, mais j'ai 4 ou 5 millions de signes. C'est à prendre ou à laisser, mais le tout. » Bon, et heureusement, il est tombé sur un type extraordinaire qui est Christian Bourgois, qui a dit « Je prends tout. » Après une réflexion quand même de quelques jours. Bon. Ce qui a donné lieu à tous ces 18, qui d'ailleurs ont un succès fou, puisqu'on ne les trouve plus. Bon. Ce texte fleuve s'appelle « Marxisme et théorie révolutionnaire ». Il montre là qu'il faut rompre avec le marxisme, que le marxisme n'est pas une théorie révolutionnaire. Bon, évidemment, ça décoiffe dans le groupe. Hein, ça crée un certain nombre d'états d'âme de gens qui sont adhérés sur des bases extrêmement marxistes et qui connaissent, moi j'en ai vu, hein, des gens de ce groupe de socialisme barbare qui ont connu, enfin je pense à un notamment, qui m'a dit, moi j'ai dû me refaire ma cerise en province parce que j'étais en pleine dépression, je mangeais plus, je dormais plus, dépression nerveuse. Hein, bon. Et donc, effectivement, des crises de conscience, là, parce que pris entre le fait que de l'engouement pour Castoriadis, qui avait toujours été très pertinent, très lucide, et puis à la fois attachement au marxisme, qui, effectivement, faisait qu'il ne pouvait pas le suivre, hein, sur une remise en cause qui devenait un peu bouleversifiante. Donc, Castoriadis s'éloigne de Marx et vous allez retrouver d'ailleurs cet énorme article fleuve. Alors lui, il va être repris par Castoriadis lui-même de son vivant dans son grand œuvre. Hein, son grand œuvre, mais je vais y revenir. C'est en 1975, l'institution imaginaire de la société, qui d'ailleurs a été publiée. Chose que j'ai découvert, je n'avais pas fait la liaison la collection Esprit du Seuil, car en effet son éditeur, et avec lequel il avait une très bonne relation, était Jean-Marie Domnac, qui dirigeait la revue du Esprit. L'abandon de Marx va s'articuler avec, dans ce début des années 60, la prise en compte de plus en plus importante de Freud. Hein, donc il va passer, mais là, c'est trop vite dit, je vous le dis pour montrer la ligne dominante, mais il va passer de Marx à Freud. Mais attention, passer de Marx à Freud, ça ne veut pas dire qu'il abandonne l'idée d'abord de transformer le monde et de le penser, de le comprendre, c'est-à-dire de penser le collectif. Son idée, c'est en ce sens qui me semble très intéressant dans le domaine des sciences humaines et sociales et de la philosophie, c'est de s'attaquer à ce problème majeur que se posent les sciences humaines et sociales, d'articuler l'individuel et le collectif. Comment articuler ? Donc, quand il passe à Freud, c'est pas « bon, ça y est, je passe sur le divan et puis je deviens psychanalyste et change de profession ». Non, c'est comment aller au plus profond du mode de fonctionnement de l'individu pour l'articuler au collectif et au social historique. Bon. Alors, évidemment, on ne passe pas à Freud et sur le divan simplement par intérêt intellectuel et professionnel. On passe à Freud aussi pour des raisons personnelles. Or, tout un chacun, vous avez, moi je n'ai pas le bouquin là, mais vous avez en tête la tête de Castoriadis. Vous n'avez peut-être pas vu le carnet photo à l'intérieur, mais Castoriadis, un de ses traits physiques particuliers, c'est que non seulement il n'a pas de cheveux, hein, mais il a absolument rien du système pileux sur tout son corps. Bon. Alors, or, des photos que j'ai dans mon carnet photo de biographie montrent qu'il est né avec des cheveux et un système pileux. Or, c'est là où je vais raconter une petite, rapidement, parce que histoire personnelle et traumatique, qui l'a effectivement fait qu'il a perdu, c'est une maladie qui s'appelle l'alopécie, il a perdu tout son système pileux à l'âge de 16 ans en perdant sa mère. Bon. Or, l'affaire est évidemment très traumatique parce que, je rappelle que c'est un enfant unique, surtout parce que son père ne voulait pas d'autres enfants. Et a fait systématiquement avorter sa femme. Et le petit Cornelius, d'ailleurs, trouvait des bains de sang assez régulièrement, des fœtus qui étaient à la maison éliminés. Et le père, qui était un coureur de jupons professionnel, plus encore que son fils, a attrapé la syphilis. L'a gentiment communiqué à son épouse. Enfin, ce n'était pas volontaire de sa part. Mais ce qui était par contre quelque peu incroyable, d'après les témoignages que j'ai eus, c'est que sur la fin, son épouse est morte des fins, stade terminal de la syphilis. C'est-à-dire, c'est épouvantable. Hein. La folie, l'incontinence, etc. Bon. Et qui s'occupait d'elle, son fils. Lequel avait voué pour sa mère apparemment un amour énorme. Sa mère était sacrée une des beautés d'Athènes, c'était tout le monde musical, il avait un rapport très très fort à sa mère, son père aussi comme autre figure, mais bon. Et donc cette crise d'alopécie, vous voyez. Hein. Bon, alors je ne fais pas de psychanalyse sauvage, je ne dis pas que c'est le seul trauma, etc. Il y a aussi des traumas historiques dont j'ai parlé. Mais incontestablement, il le dit d'ailleurs dans une émission radio, il dit j'ai commencé une analyse en 60 pour des raisons personnelles qu'il n'explicite pas. Mais on voit bien que quand même, il y a un certain nombre de raisons d'y passer. Donc il fait une première analyse, une deuxième, et puis une analyse de contrôle. Mais surtout, outre son analyse, sur laquelle évidemment on ne sait rien, il va être de plus en plus intéressé. Et dans ces années 60, vous savez que la psychanalyse est une discipline qui est très en pointe, bon, avec un leader charismatique hein, dans ces années 60, qui est Jacques Lacan, qui est un chaman de la psychanalyse. Hein, je ne sais pas si vous avez vu... Ne serait-ce que, il faut voir quelques passages de Lacan. Qui osera ? C'est un numéro extraordinaire. Bon. Et donc, on comprend qu'il y avait des gens qui allaient dans la salle du San hein, l'écouter, même quand il n'était pas là, parce que son esprit était là. C'est dire. Et donc, Castoriadis va suivre les séminaires de Serge Leclerc, de Clavreul, de François Perrier, de Pierre Aolagnier, et bien sûr de Lacan. Ça va de soi. Et il adhère en 64 à l'école lacanienne. Et il rencontre surtout cette psychanalyste qui va jouer un rôle extrêmement important à ses côtés, qui est Pierre Aulagnier, dont il suit le séminaire, avec laquelle il noue une relation. Et en 68, il se marie avec Pierre Aulagnier. Alors, c'est quelque chose qui va être extrêmement important là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, l'évolution de l'école lacanienne, qui elle aussi va aller dans le sens d'une diaspora et des ruptures, va en effet se constituer en 69, après 68, ce qu'on appelle, qui existe toujours, le quatrième groupe. Parce que c'est la quatrième, non pas la quatrième internationale, mais la quatrième scission. Et dans ce quatrième groupe, vous avez un certain nombre de psychanalystes, parmi lesquels Pierre Aulagnier, parmi lesquels Micheline Henriquez. Et vous avez là deux couples très liés, Castoriadis et Pierre Aulagnier Castoriadis, et Micheline Henriquez, membre du quatrième groupe, et Eugène Henriquez, psychosociologue. Et là, vous avez manifestement dans l'hypothèse que je fais, qui m'a été quand même confirmée par Sophie Mijola, qui est membre du quatrième groupe, il y a là une influence manifeste à la fois de 68 et de la critique anti-bureaucratique, parce que ce quatrième groupe se présente comme un non-groupe. Pas de secrétaire, pas de trésorier, pas de locaux, c'est un non-groupe. Et donc, il y a là effectivement le fonctionnement d'un groupe qui met la prédominance sur l'instituant, sur le changement, sur le mouvement, sur le processus, pour éviter toute forme d'ossification, de fossilisation de caractère statique. Et là, on peut y voir évidemment la patte des critiques anti-bureaucratiques de Castoriadis et puis des dialogues avec... Mais, et ça j'en ai eu témoignage, je vous ai dit que le mariage était en 68 avec Pierre Aulagnier, je vous ai dit que le maître d'œuvre c'était en 75, l'institution imaginaire de la société, eh bien, ils ont tenu l'un et l'autre, Pierre Aulagnier et Castoriadis, à sortir en même temps, en 75, deux livres qui leur sont extrêmement importants, qui est l'institution imaginaire de la société pour l'un, Castoriadis, et la violence de l'interprétation pour l'autre, Pierre Aulagnier. Et, d'après les témoignages que j'ai eus, ils ne cessaient de s'échanger les chapitres, d'en discuter sans arrêt, l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que, justement, ils essayaient d'éviter toute forme de réductionnisme, qu'il soit de l'ordre de ce que Castel appelait le psychanalysme, lequel, d'ailleurs, Castel a été membre de la revue Topique de Pierre Aulagnier, et ou de réductionnisme sur le plan sociologique, réduisant l'individu à ses conditions sociales, et que là, ils ont joué un rôle dans l'étayage, je dirais, de l'analyse de ce qu'est l'individu et la psyché sur le social historique. Donc, articulant psyché et le social historique, et en privilégiant sans arrêt les processus d'historisation au plan et individuel et collectif. Au point que, en 73, Castoriadis s'installe comme psychanalyste, après une analyse de contrôle avec Jean-Paul Valabrega, qui est membre du quatrième groupe. Et là, anecdote, mais assez drôle, et surtout pour vous d'ailleurs, c'est que j'ai la fille aînée de Castoriadis, qui est psychanalyste, qui est Sparta psychanalyste. Le jour où elle apprend que, par Pierre Aulagnier d'ailleurs, que son père allait devenir psychanalyste, elle est venue voir son père, elle dit, mais non, mais t'es complètement timbré. Toi, psychanalyste, mais t'es incapable d'être psychanalyste. Parce que tu es incapable de la fermer. Et alors, votre témoignage est effectivement intéressant, comme ceux que j'ai vus, les analysants que j'ai vus qui sont passés sur le divan de Castoriadis. Au contraire, il était très dans le respect des règles de l'écoute et de l'écoute flottante et du non-interventionnisme, alors que sa fille en doutait, hein, qu'il puisse se conduire comme ça. Parce qu'effectivement, dans les groupes et en famille et ailleurs, etc., avec ses amis, il se conduisait absolument pas du tout de cette manière. Alors, il va en résulter de cette évolution de Marx à Freud quelque chose de fondamental dans la pensée de Castoriadis, qui est le primat de l'imaginaire. Primat de l'imaginaire, recours à l'imaginaire. Alors vous me direz, il n'a pas inventé la question de l'imaginaire. On la retrouve chez Marx avec la question du fétichisme. On la retrouve chez Lacan avec la triade RSI, réel, symbolique, imaginaire. Mais l'imaginaire pour Lacan, c'est le stade du miroir. C'est une conception spéculaire de l'imaginaire et qui renvoie à la prévalence donnée chez Lacan au symbolique, hein, au signifiant pur, au symbolique par rapport à l'imaginaire qui est déprécié. Or, tout le travail là de Castoriadis à l'encontre de la doxa marxo-freudienne est d'affirmer que tout commence par l'imaginaire et l'historique, l'intelligibilité historique commence par là. L'histoire est impossible et inconcevable en dehors de l'imagination productive et créatrice de ce que nous avons appelé l'imaginaire radical, tel qu'il se manifeste à la fois et indissolublement dans le fer historique, dit-il, dans l'institution imaginaire de la société. Et d'ailleurs, il aura, et c'est dommage parce que là, il a manqué de temps, il n'a pas répondu à une demande qui lui a été faite, je crois, pour un numéro de l'Arc sur Georges Duby. Mais il y a une rencontre qui aurait pu se faire parce que Georges Duby est, vous situez, l'Institution imaginaire de la société, c'est 75. Georges Duby tient un séminaire qui va donner lieu à une publication en 78 qui s'appelle « L'imaginaire, les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme ». Et Georges Duby de dire, quant au mot « imaginaire », il le dira dans le débat, « j'en étais redevable, je crois, à Castoriadis ». Dont le livre « L'institution imaginaire de la société », paru 3 ans avant le mien, développait l'idée de société qui s'auto-institue à travers notamment l'image qu'elle se fait d'elle-même. Donc il retient cette idée de l'imaginaire comme en avant, finalement, et porteur et moteur du processus historique et de la création, de la créativité historique. Il le tient du bide de Castoriadis dans l'analyse, vous savez, de la question de la tripartition et de cette querelle entre Gérard de Cambrai et Aldabéron de Lan, si ma mémoire est bonne. Donc Castoriadis ne récuse pas la dimension du symbolique, mais l'imaginaire est plus important et il retrace, hein, pas le temps, j'évoque à grands pas l'histoire de la philosophie, donc il revisite Kant en disant que Kant a le mérite de donner à l'imagination transcendantale toute sa place, mais une place qui reste encore secondarisée, parce que chez Kant, l'imagination transcendantale est rattachée au sensible, et le sensible est secondarisé par rapport à l'intelligible, donc il y a quand même une secondarisation. Il reconnaît dans la phénoménologie une place de l'imaginaire et des variations imaginantes, mais encore dans une approche trop égologique, trop solipsiste, trop fermé sur soi-même et pas assez connecté avec le social historique. Et donc, il va constituer lui-même sa théorie de l'imaginaire. On a effectivement chez lui, en gestation, une anthropologie de l'imaginaire qu'il déploie, qui évidemment œuvre indéfinie, puisque non terminée, puisque son éditeur... qui regrette de ne plus être au seuil d'ailleurs pour plus s'occuper, et donc de ne plus s'occuper de l'œuvre de Castoriadis, me disait qu'il y en avait encore pour 18 ans d'inédits de publication. C'est-à-dire que, même y compris sur le plan éditorial, tout n'a pas été publié. Il y a encore plein de choses dans les archives qui sont à venir, et notamment sur la partie de la fin, d'ailleurs la partie plus proprement psychanalytique qui demande à être de ces derniers séminaires. C'est Jean-Claude Guibaud, cherchez son nom, qui est aujourd'hui aux éditions des Arènes et qui, j'ai vu évidemment, et qui a noué une relation à la fois d'amitié et d'éditeur de Castoriadis. Alors, et je terminerai là-dessus, avant vos questions, pour lui, la grande actualité de Castoriadis, c'est évidemment de penser la démocratie et ce qu'il appelle donc le, non pas le modèle grec, mais le germe grec. Le germe grec. Kassoriadis, évidemment, a toujours entretenu un rapport très fort, mais ambivalent, à son pays d'origine, la Grèce. Très attaché à la Grèce, quasi corporellement, aux sensations, à la douceur de vie méditerranéenne. Bon, il passait tous les ans, hein, 2 mois, systématiquement, sur une île grecque. Hein, ça a été dans l'île où il avait sa maison avec Pierre Olanier, puis avec Zoé, donc à Skopelos, puis à Tinos. Et marqué par la Grèce, ce que dit de son ami Cornelius Edgar Morin. Voilà ce que dit Morin. Corneille, parce que c'est effectivement, il ajoute comme nous l'appelions, Corneille comme nous l'appelions, se ressourçait sans discontinuer dans les textes de Platon et d'Aristote. Mais il n'était pas philosophe intramuros. Il s'efforçait de penser les composantes de la culture et du savoir de son temps. Il tenait de la présence de ses ancêtres dans le monde ottoman une démarche de paysan balkanique. Mais il était bien un Athénien du siècle de Périclès, à considérer l'alacrité de son intelligence. C'était en même temps un chaleureux méditerranéen, un authentique européen de culture, portant en lui l'Orient et l'Occident. Et cet immigré devenu français a contribué à la richesse et à l'universalité de la culture française. Bel hommage que rend ici Morin sur le caractère universel de son message et en même temps très, très ancré. Alors, ça lui a été parfois reproché, ce côté très ancré dans la Grèce. Certains jugent que ces théories sont un peu hellénocentrées. Certains disent, vous ne mettriez pas les Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ au même niveau que les Nambiquara. Il dit oui, en effet, c'est vrai qu'il y a une différence que je fais entre les Nambiquara et les Grecs, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il est en fait tout sauf un nationaliste grec. Hein. Il n'y a pas plus critique du nationalisme grec que lui et plus dur sur son pays d'origine que lui. À une question qui lui a été posée en 1994, dans un entretien en Grèce, aux Grecs, hein, on lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la vie politique grecque aujourd'hui dans les années 90 ? Il répond, je dirais que la vie politique du peuple grec s'arrête aux alentours de 404 avant Jésus-Christ. Je parle de la véritable vie politique du peuple grec, compris comme agent autonome. Hein, voilà ce qu'il dit. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu dur pour la Grèce moderne. Il dit aussi, à une question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez en Grèce ? Il répond, oh, c'est une image catastrophique. Lorsque j'arrive à Athènes, j'ai le sentiment qu'on a pris ma mère et qu'on l'a mise sur un trottoir. Donc, mais hein, c'est quand même rédhibitoire. Hein. Et il dit d'ailleurs, si j'étais resté, ce pays m'aurait englouti. Bon, mais il a failli d'ailleurs être englouti, je vous l'ai dit pourquoi, mais peut-être pour d'autres raisons là. Bon, il dit par ailleurs que les Grecs sont tous racistes, etc. Et qu'ils n'ont pas besoin du Front National. Bon, cela dit, là, mais là, il n'a pas vu la Grèce d'aujourd'hui. Il n'est pas connu Aurore Dorée. Heureusement pour lui. Alors, s'il est critique par rapport à la Grèce contemporaine, par contre, effectivement, pour lui, les Grecs anciens ont créé quelque chose de fondamental, de tout à fait neuf. Il y a là une création politique, une création sociale historique, qui est la démocratie politique, la cité, la police, au sens grec du terme, IS, cette communauté citoyenne qui se dote elle-même de ses propres institutions et qui n'a d'autre fondement, c'est là l'autonomie qu'il met en avant, qui n'a d'autre fondement qu'elle-même, qui n'a d'autre fondement que ce que se donnent les citoyens eux-mêmes lorsqu'ils créent leur propre cité. Donc, il y a là quelque chose qui est un germe fécond pour l'aujourd'hui. Et là, Kassoriadis se met en rupture de thèse continuiste, je pense, parce qu'on a l'habitude de voir la Grèce comme le berceau, hein, la démocratie ancienne, berceau de la démocratie moderne, des modernes. Bon, Lavis dit, notre grand maître du roman national, notre histoire commence avec les Grecs, donc c'est pas nouveau, mais dans un continuum. Bon. Pour lui, non. Il va s'inspirer plutôt, et se trouver proche, de ce qu'on appelle l'école de Paris dans les années 60-70, qui est cette école qui, au contraire, met l'accent d'une anthropologie historique et d'historien, où on retrouve Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, Marcel Détienne, Claude Mossé, Nicole Leroux. Bien, tous des gens qui mettent l'accent, au contraire, sur la singularité de l'homme grec, la singularité de la société grecque, la nouveauté de la communauté grecque. Pure invention. Et là-dessus, Vidal-Naquet le suit en disant, oui, effectivement, Castoriadis récuse toutes les causes qu'on met en avant en général pour dire, bah oui, la démocratie, elle est le produit de telle cause plus telle cause. Par exemple, la révolution hoplitique, par exemple, la révolution démographique, par exemple, le processus de colonisation de la cité grecque dans la Méditerranée. Il dit non, voilà, c'est une pure invention. Il n'y a pas de raison technologique, démographique ou sociale qui vienne à bout de cette volonté d'autonomie, hein, de cette rupture de l'hétéronomie. On a là un démos, et dit d'ailleurs, et il en tire des conséquences pour lui, il n'y a de démocratie que de démocratie directe. Il part d'ailleurs de, vous connaissez sans doute le fameux passage hein, où il rappelle l'étymologie du terme démocratie, demos kratos, demos le peuple, kratos le pouvoir, donc la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Et tous les penseurs grecs montrent que de cette époque, qu'effectivement la politique n'est pas un métier, c'est pas une techné particulière comme être forgeron ou être médecin, non. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire, en tout cas, de tous les citoyens. Bon. Alors là, après, il y a le débat avec Vidal-Naquet sur les esclaves. Est-ce que les esclaves sont une condition de possibilité de la démocratie ou pas, etc. Bon. Ça, c'est oui, les métèques. Hein. Ça, c'est une autre question. Mais on a là, effectivement, un démos qui proclame sa souveraineté, l'autodikos, l'égalité politique, l'isonomia, qui se dote d'institutions, l'ecclésia, et qui fonctionne en tant que tel, sur le mode du refus de la délégation de pouvoir, et donc du refus de la démocratie représentative, parce que avoir des représentants, c'est abdiquer son propre pouvoir en le confiant à quelqu'un d'autre. Et là-dessus, il aime à répéter cette phrase de Thucydide qui dit eh bien, entre la liberté et se reposer, il faut choisir. On peut effectivement déléguer à d'autres et puis se reposer et dormir. C'est un choix possible hein, pour les êtres humains. Mais si vous voulez exercer la liberté, il y a un coût, il y a un prix, il y a une assesse. Effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut participer, il faut se tenir au courant des grands débats de la cité. Et puis, donc là, évidemment, il va saluer le discours de Périclès, la réforme de Clisthène. Il va d'ailleurs montrer que qui dit révolution dit pas forcément effusion de sang, contrairement à ce qu'on a souvent dit dans un moment où la notion de révolution est en berne, sur le modèle évidemment bolchevique et le destin funeste des pays de l'Est. Il dit mais la révolution, il y a parfois la barbarie peut arriver et pas par une révolution. Hitler est arrivé par les élections. Bon. Et puis vous pouvez avoir aussi des sociétés démocratiques qui arrivent par les élections. Et qui arrive de manière très pacifique, comme la réforme de Clisthène, l'Athénien, et qui établit les règles de cette démocratie politique. Comme d'ailleurs, on peut dire qu'il y a un certain nombre, depuis la mort de Castoriadis, un certain nombre de révolutions, de velours, de rassemblements de citoyens sur les places, enfin d'un certain nombre de choses nouvelles. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait la Grèce? Eh bien, ce qui fait la Grèce, nous dit Castoriadis, ce n'est pas la mesure et l'harmonie, ni une évidence de la vérité, comme dévoilement. Ce qui fait la Grèce, c'est la question du non-sens et du non-être. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, que la spécificité grecque, c'est le non-sens, c'est le non-être. Mais il établit une corrélation, effectivement, entre le fait que les Grecs, qui avaient beau avoir des dieux protecteurs ou des déesses protectrices, les Grecs anciens de cette époque ne croyaient pas au salut individuel. Ils ne croyaient pas à la survie. Donc, il dit, voilà, ils ont pris en compte complètement la finitude de l'existence. Et pour eux, donc, il n'y a pas d'hétéronomie. Hein. L'existence, c'est le sens qu'on donne durant son existence. Donc, c'est la prise de conscience de cette finitude, de ce non-sens, de cette absence de téléologie, qui fait qu'on va valoriser le présent et on va valoriser le sens qu'on attribue de manière autonome, collectivement, à la vie, l'être ensemble, au lien social. Évidemment, c'est là où il est très critique par rapport à la Grèce contemporaine, puisque qu'est-ce que la Grèce contemporaine, y compris sur le plan de son architecture, de ses villes, etc. C'est au contraire, c'est pour beaucoup a été en Grèce, c'est la liaison, l'enchevêtrement de deux stylistiques, qui est l'Antiquité, le style de la Grèce archaïque, classique, hellénistique, et de l'Église byzantine et du judéo-christianisme. Donc là, effectivement, Castoriadis a un message qui est irrecevable chez les Grecs, puisqu'il leur dit, il faut choisir. Ou vous voulez un pouvoir de théologie politique effectivement avec l'Église byzantine, ou vous effectivement passez à tout autre chose, et qui est l'autonomie. Mais il faut... Ce qui... on a d'ailleurs... je suis très intéressé par cette question parce qu'il se trouve que ma bio vient de paraître à Noël en grec. Donc là, je suis très curieux de savoir quelle va être la réception. Il commence à y avoir pas mal d'articles. La réception en Grèce, justement, parce que c'est très ambivalent. Il a un discours extrêmement critique et en même temps, il est le héros grec. C'est un génie. Donc il peut être aussi récupéré pour des raisons qui ne sont pas forcément des bonnes raisons, qui sont des raisons très nationalitaires. Alors je termine en disant que Castoriadis donc constitue aujourd'hui une ressource possible. En plus, sur le plan de l'œuvre, bon, je n'ai pas évoqué concrètement ce que ça représente, mais c'est absolument énorme parce qu'il y a tous ces volumes des éditions du Centre. Vous avez au seuil toute une série de livres, 6 volumes, qui s'appelle « Les carrefours du labyrinthe ». Vous avez, c'est pas fini, au seuil, ces séminaires qui sont en voie de publication. Donc, une œuvre extrêmement profuse et qui n'a pas terminé voir sa visibilité, beaucoup plus riche, en fait, que celle de Claude Lefort, et qui est une énorme ressource qui, aujourd'hui, peut nourrir... il y en a peut-être dans les questions, mais une situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation de crise de projet, de crise du futur, de crise de l'avenir, et qui fait que, effectivement, aujourd'hui, on est dans ce que Hartog appelle une forme de présentisme, d'enfermement dans notre espace d'expérience, faute de projet, qu'évidemment, on ne va pas reprendre des projets dont on sait qu'ils sont mortifères et où ils mènent. Et donc... mais en même temps, un individu, a fortiori s'il est jeune, ou une société, ont besoin de projets. Ont besoin de projets. Bon. Et donc, il faut encore, évidemment, aller au-delà d'une simple gestion du quotidien, mais penser des perspectives d'émancipation au niveau de projets collectifs. Et là, il me semble que c'est une pensée qui n'est pas du tout dans la nostalgie. Ce n'est pas sur l'âge d'or grec, etc., qui est derrière nous, mais pas du tout. C'est un germe pour construire notre horizon d'attente. Et je terminerai en citant celui qui, à l'inverse de Castoriadis, a été le chantre de la démocratie moderne et représentative, qui est Benjamin Constant, qui a opposé la démocratie antique des anciens, en disant que la démocratie moderne était beaucoup plus... aller beaucoup plus loin dans le fonctionnement de la modernité, mais qui conclut, et je vais citer Benjamin Constant, qui conclut son discours de 1819, on est au début du 19e siècle, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, de la manière suivante. La liberté moderne, qu'il défend lui en tant que moderne, est menacée d'un danger d'espèce différente à celui de la liberté antique. Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le passage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, Nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Point d'exclamation, Benjamin Constant, 1819. Et vous voyez à quel point Benjamin Constant était presque castoriadien. Merci.
Merci beaucoup pour cette belle conférence. Vous avez résumé en une heure et demie un énorme ouvrage. Donc j'invite le public à se procurer aux éditions de La Découverte, parce que synthétiser votre ouvrage en une heure et demie, ben c'est vraiment bon, c'est magnifique. Merci beaucoup François Dos. Y a-t-il des questions dans la salle? 10 minutes, parce qu'on est un petit peu... Oui, ça va, 10 minutes, un quart d'heure. Vas-y, monsieur. C'est enregistré.
Vous avez évoqué les voyages avec Papaioannou. Est-ce qu'il y a un parallèle dans leur parcours? Parce que lui aussi, il s'éloigne, Papaioannou, je veux dire, il s'éloigne du marxisme, du léninisme dès le départ. Mais quand il écrit l'idéologie froide, il est déjà, je crois, en rupture même avec Marx. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport, pas organique évidemment, parce qu'il n'a jamais été, je crois, avec Solisme Barbarie.
Non.
Il a écrit dans d'autres revues, Diogène ou ailleurs, mais...
Alors... Pour Kostas Papaioannou, je vous renvoie au magnifique petit livre qu'a sorti, il se trouve que j'étais à sa soutenance de thèse, dans son jury, François Borde, hein, qui est un spécialiste de Papaioannou, qui s'est occupé de ses archives et qui vient de sortir un petit livre sur Papaioannou. Oui, vous avez tout à fait raison, Papaioannou a été plus loin dans la rupture avec Marx. Même s'il a contribué, moi j'ai dans ma bibliothèque un livre que fait Papaioannou, livre de poche, sur une anthologie des textes marxistes, il y a très très longtemps, dans les années 60. Mais effectivement, sa rupture est très radicale. Et pour vous situer quand même, Papaioannou avait comme directeur de thèse, il suivait son séminaire, Raymond Aron. Donc, vous voyez, et là, on n'est pas tout à fait dans la même galaxie, en effet, hein, entre les Aroniens et Castoriadis, parce que Castoriadis prend ses distances par rapport à Marx, mais il reste un révolutionnaire à distance des libéraux, hein, qui vont abandonner Marx, mais qui vont être sur des défenses du monde de l'Ouest, de la société telle qu'elle est, etc. Bon, ce n'est pas du tout les positions de Castoriadis, hein, qui restent... un discours très critique et révolutionnaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Papaioannou, qui ne cultiveront pas beaucoup leur rapport entre eux. Hein, ils se verront finalement très peu. D'après François Borde, il le raconte, je crois qu'il y a un moment où, dans un autre voyage tardif de Grèce, ils se retrouvent, mais c'est très contingent, c'est pas le suivi d'une relation.
Attendez, monsieur. Il y a une question que je me suis posée en lisant votre livre et en référence avec mon expérience ou mon histoire personnelle, c'est la place en 1965. J'étais à la fois membre de l'Union des étudiants communistes et membre de la partie clandestine du Parti communiste. Et est arrivé les livres de Jacek Kuron et de
Modzelewski.
Et oui, voilà. Et ça a été une bombe parce que ce qu'il démontre dans le texte qui a circulé, c'est que soi-disant socialisme est en réalité un capitalisme d'État, ce qui sous-entend ce que dira plus tard Castoriadis, Marx est le théoricien économique du capitalisme et pas du socialisme. Et je me demande, est-ce qu'il y a eu à un moment donné ou à un autre, est-ce que vous avez connaissance d'une relation quelconque entre ces Polonais et Castoriadis.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de relations. Je connais les textes dont vous parlez et je crois qu'il y a des accords parce que cette question du capitalisme d'État, qui est une analyse impossible hein, de la formation sociale russe, Castoriadis en a eu connaissance très tôt, y compris dans la formation du groupe Socialisme ou Barbarie. Hein. Il y a un certain nombre de bordiglistes qui étaient ils sont des communistes italiens un peu en rupture de banc, qui étaient sur cette analyse-là, hein, que c'est un capitalisme d'État. Et ce n'était pas l'analyse que faisait non plus Socialisme ou Barbarie. Il y a eu des échanges aussi avec Pankouk. Je parle de lettres, d'ailleurs, de Pankouk et de correspondance et d'échanges théoriques entre Pankouk et Castoriadis et le courant Socialisme ou Barbarie. Là aussi, Pankouk défend l'idée d'un capitalisme d'État. Ça n'a pas non plus été... Enfin, dès le départ, c'est pas comme ça qu'analyse son livre sur, justement, la société russe. Il ne l'analyse pas comme une forme de capitalisme, pas du tout. Et pas non plus le socialisme, évidemment. Mais une forme singulière de totalitarisme.
Je me demandais ce qu'il pensait des situationnistes.
Ah.
Quelle était sa relation ?
Alors, ça me fait penser, il y a un truc manquant. Il y a plein de choses manquantes dans mon exposé, parce que j'ai essayé de me tenir à l'horaire, et encore, j'ai débordé. Mais effectivement, c'est 68 que j'ai zappé, alors que c'est quand même une des raisons fondamentales qui me font m'intéresser à Castoriadis. Donc votre question est tout à fait appropriée et bienvenue. Et je vous en remercie parce qu'effectivement, on a un petit peu trop tendance à dire que 68, c'est un effet des situationnistes, hein, de Debord, des situationnistes, etc. Bon. Dans mon bouquin, je démontre le contraire. C'est-à-dire que ce qui a joué en 68, ce n'est pas du tout Debord et les situationnistes. Debord qui n'a fait qu'un tout petit tour à Socialisme ou Barbarie, où il a essayé de draguer un certain nombre de jeunes et les tirer vers son groupe. Il a échoué d'ailleurs, parce qu'il s'est heurté très vite à Castoriadis, qui n'a pas apprécié particulièrement la plaisanterie. Et il avait compris. Puis après, ça a été aux insultes mutuelles. Mais là, j'en ai eu confirmation. C'était déjà dans les écrits. Hein. Mais il y a eu un débat autour de mon bouquin à Paris, la Maison de la Poésie. Fréquentait d'ailleurs, que fréquente beaucoup, je pense à elle comme ça, parce qu'elle fait l'actualité, Taubira, qui assistait à... Elle était... va fréquemment à la Maison de la Poésie, donc elle assistait à ce débat qui a eu lieu, qui m'a beaucoup ému autour de la figure de Castoriadis, entre moi et Cohn-Bendit. Effectivement, là, on avait avec Cohn-Bendit la figure même qui incarne le mouvement du 22 mars et le mouvement estudiantin de 68. Et la question a été posée dans la salle. De dire est-ce que Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne en 68. Alors moi, j'ai répondu factuellement que non. Castoriadis, de toute façon, était encore grec, il devait faire très attention. Et alors, il est aux anges en 68 et il publie un texte énorme, évidemment, qu'il distribue, qu'il fait distribuer autour de lui. Il n'y a plus Socialisme ou Barbarie. Je ne l'ai pas dit, paradoxe d'ailleurs, étonnant, le groupe se dissout. Mais à l'époque, ils étaient une dizaine. Hein. Ils se dissout en 67. Vous voyez, là, hein, ils n'ont pas vu venir 68. Et pourtant, il commençait à y avoir pas mal d'articles sur la jeunesse scolarisée, la radicalisation de la jeunesse. Ils voyaient déjà un certain nombre de choses. Mais en même temps, il n'y a plus de socialisme au barbarie en 68. Et puis, évidemment, quand 68 arrive, Castoriadis réunit un certain nombre d'anciens. Et là, il habite avec Pierre Aulagnier dans un grand appartement de 300 mètres carrés à Paris, avec un personnel en livrée, etc. Donc là, les travailleurs ont été un peu étonnés d'arriver dans ces conditions. Et pour voir le camarade Castoriadis, et il a dit, il faut faire quelque chose, etc. Hein, on va discuter du texte que j'ai fait. Bon. Il a fait un texte, et puis il le fait distribuer, mais il le signe Coudray. Bon. Et ça donnera lieu, alors après, 20 ans après, il reprendra son nom Castoriadis, mais ça donnera lieu au livre que vous connaissez tous, qui s'appelle La Brèche, et qui est le livre de Morin, Lefort et Coudray Castoriadis. Et qui est une analyse à chaud, qui paraît en 68, du mouvement de 68. Alors, pour vous continuer l'anecdote avec Cohn-Bendit, moi, je réponds donc, il n'était pas à la Sorbonne, évidemment. Bon, mais il était, il écrit sur le mouvement, il est complètement en phase avec tout ce qui s'exprime, etc. Bon, qui est le mouvement d'autonomie, évidemment. Bon, de la prise de parole, comme m'a dit Certeau. Et Cohn-Bendit, à côté de moi, prend la parole. Il dit, si. Si, Castoriadis, c'était bien la Sorbonne en 68. Alors, tout le monde le regarde. Hein. C'était moi. C'était moi parce que j'étais nourri. J'étais nourri de. Moi, ma lecture, c'était socialisme ou barbarie. Hein. Et je lisais, je ne savais pas que c'était Castoriadis, moi, je lisais Chaulieu. Bon. Et ben, ce que je disais, j'ai un côté ventriloque, hein. Ce que je disais aux étudiants à la Sorbonne, c'était du Chaulieu. Hein. Et donc, Castoriadis s'est exprimé à la Sorbonne. C'était parce que, effectivement, et c'est vrai, il l'avait écrit, son frère aîné, Gabriel Cohn-Bendit, lui mettait la revue. Il était abonné à la revue Socialisme ou Barbarie. Donc, il avait toutes les livraisons et il s'est complètement nourri, y compris quand il contestait, par exemple, il a eu à la fois de bonnes relations avec Touraine, Alain Touraine, qu'il a défendu en tant que. Universitaire quand il était poursuivi, etc., sur les plans disciplinaires. Mais en même temps, il contestait les propos de Touraine. Votre nouvelle classe ouvrière, là, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, dans Socialisme ou Barbarie, on dit bien que la classe ouvrière n'est pas morte. Bon, donc, mais il y a des conseils ouvriers, regardez en Pologne. Donc il se nourrissait de cela. Et donc, manifestement, oui, Socialisme ou Barbarie a joué un grand rôle en 68. Moins. Alors, quant à Debord, là, il se trouve que j'étais aussi dans un jury de thèse d'un livre qui vient de paraître, d'ailleurs. Je n'ai plus le nom, c'est un nom un peu compliqué, de celle qui a publié le livre sur l'international situationniste, un gros bouquin, une thèse extrêmement sérieuse de 1000 pages, un truc absolument énorme. Mais quand on voit quelles étaient les mœurs de Debord, on se dit que Staline, à côté, était presque un enfant de cœur. Donc, c'est vous dire. Mais enfin, il a réussi à construire son icône. Hein. Chapeau l'artiste, parce qu'il est pléiadisé, il est, effectivement, le grand œuvre gallimardisé.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Parce que on n'est pas.
Je me posais la question. Dans cette démarche de rejet de tout réductionnisme, on retrouve cette tendance qui consiste à confondre systématiquement le déterminisme avec le prévisionnisme. Et puisque certaines choses ne sont pas facilement, qu'on ne peut pas facilement les prévoir, on glisse assez rapidement vers l'idée que le déterminisme est trop réductionniste. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas expliquer les choses par deux ou trois détails. J'y sens quand même quelque chose là-dedans d'un petit peu, pour le coup, réducteur, à savoir que ce n'est pas parce que tel élément n'explique pas qu'il n'y a pas éventuellement une explication, voire même, ça n'est pas parce que quelque chose n'est finalement pas explicable qu'il faut forcément recourir à ces figures finalement très difficiles à déterminer que sont l'autonomie, la liberté, toutes ces choses qui finalement, à un moment donné, ne servent qu'à combler cette imprévisibilité. Alors visiblement, effectivement, à force de penser que les choses n'étaient pas prévisibles, et ben oui, finalement, il n'a pas prévu 68. Quoi.
Là, je m'inscris évidemment à ces infos avec ce que vous dites en historien. Hein. Il se trouve que j'ai publié il n'y a pas longtemps un livre sur l'événement que j'appelle Renaissance de l'événement, une énigme pour l'historien entre Sphinx et Phénix. Pour moi, effectivement, ce qui caractérise l'événement, mais pas seulement pour moi, Derrida dit ça, et Anna Arendt aussi, ce qui caractérise ce qu'est un événement en histoire, je dis bien dans ma discipline, hein, je me garderai de parler des sciences exactes, c'est justement son imprévisibilité et le fait qu'on arrive du nouveau et que ce nouveau déborde les explications que l'on peut en trouver. Et c'est ce que disait Hannah Arendt à propos de la guerre de 14-18 en disant, en mettant en relation et asymétrique, en disant mais ces pauvres explications de ce conflit mondial de 4 ans qui ne viennent évidemment pas à bout de cet événement. Ça ne veut pas dire que l'historien doive renoncer à expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des schémas d'explication. Là, je suis très ricœurien. Je veux dire, dans l'opération historiographique, il y a effectivement le stade de ce que Ricœur appelle l'expliquer, comprendre. Donc il y a effectivement un certain nombre de schèmes d'intelligibilité pour essayer de mieux comprendre et donc d'expliquer ce qui s'est passé. Mais tout en sachant avec modestie qu'on ne viendra jamais à bout de l'explication. Et que même si d'ailleurs on arrivait à des explications extrêmement convaincantes, hein, il se trouve que les événements, et là j'aime beaucoup la formule dont on parlait tout à l'heure de Michel de Certeau, l'événement est ce qu'il devient, et surtout pour nous, à partir du moment où vous partez du principe que l'événement est ce qu'il devient jusqu'à celui qui l'interroge, l'événement ne peut pas être réduit à ses explications parce qu'il y a toujours de nouvelles interrogations et il y a des événements qui percutent d'autres événements ultérieurs et qui les modifient dans la conscience collective. Donc il y a là toute une série de transformations au niveau des traces et des métamorphoses de sens des événements qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le travail de l'historien est plus que de chercher à enfermer les événements dans des causes, à expliquer le legs dans la mémoire collective des traces de ces 10 événements. Voilà.
On est malheureusement obligé de terminer là-dessus. Merci beaucoup, monsieur.